Pour notre sujet principal, je vais passer la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA, qui a préparé et va animer ce sujet sur le numérique et la transition écologique. Avec ses deux invités, Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, et Tristan Ito, responsable du développement durable chez Scaleway. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ou ton chat. Laurent, je te laisse la parole.
Merci Étienne pour cette introduction. Alors effectivement, j'avais intitulé ce sujet long numérique et transition écologique, y a-t-il un hic ? Alors évidemment, il y a un hic dans écologique, mais vous aurez noté que ça s'écrit peut-être pas pareil. Et donc, on a choisi d'inviter Agnès Crépet et Tristan Ito, qui vont se présenter, que tu as présenté succinctement, mais qui vont se présenter plus longuement, pour échanger sur ce sujet-là qui est loin d'être anodin en cette période où, disons que l'énergie coûte de plus en plus cher et où chacun se crispe par rapport à ces questions-là. Donc je vais passer la parole à Agnès Crépet qui va pouvoir se présenter. Donc elle est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone. Il va falloir qu'elle nous explique un peu ce que c'est Fairphone puisque tout le monde ne connaît pas. Et puis on passera la parole ensuite à Tristan. Agnès, tu nous entends ?
Oui, bonjour, alors, vous m'entendez bien, c'est bon ?
On t'entend très bien. Alors toi tu es à distance et Tristan par contre est dans les studios. Donc on va essayer de se coordonner, ouais. Ce ne sera pas toujours évident, donc excusez-nous s'il y a des petits ratés. Agnès.
Pas de souci. Donc oui, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Agnès, je travaille chez Fairphone depuis 4 ans et demi. Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise qui fait un téléphone responsable, éthique, dont les principales caractéristiques sont le fait qu'on respecte les personnes qui fabriquent le téléphone, donc aussi bien les mineurs, au sens des gens qui bossent dans les mines, jusqu'à celles et ceux qui assemblent le téléphone. Et on fait aussi des téléphones qui durent, hein, ce qui n'est pas forcément la norme aujourd'hui actuellement, d'avoir des téléphones qui durent. Donc nous, on veut faire en sorte que ces téléphones aient une longue vie, un peu comme nos machines à laver. Ou ce genre d'appareil. Voilà. Et moi, chez Fairphone, je suis responsable de la longévité logicielle. Donc, on lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones dans mon équipe. Et je m'occupe aussi de l'IT, donc des choses autour de l'informatique, mais beaucoup moins exotiques. Voilà.
D'accord. Alors, peut-être que pour les poditeurs et les poditeuses, ce serait intéressant d'expliquer pourquoi il faut faire durer du matériel, puisque souvent, on a tendance à penser que finalement, il faudrait remplacer très vite son appareil parce que le nouvel appareil est mieux conçu et qu'il consommerait moins.
Oui, bon, en fait, les études, ce qu'on appelle les études d'analyse du cycle de vie, montrent toutes, et c'est pas vrai que pour les Fairphone, c'est vrai pour n'importe quel téléphone, montrent toutes que le principal coût environnemental est lié à la production des appareils. Donc en gros, on est entre 75 et 80% du coût environnemental, coût CO2, ressources abiotiques, écotoxicité, human toxicity, enfin voilà. Sur plein d'aspects, c'est beaucoup plus coûteux la production des téléphones. Donc la clé, c'est de moins en produire. Mais pour moins en produire, comment on fait pour moins produire de téléphones ? Bah, faut qu'ils durent en fait, faut que ceux qui existent durent en fait, pour ceux qui sont faire en sorte que les personnes puissent garder leur téléphone 7 ou 8 ans, alors que la norme actuellement dans les téléphones Android, c'est plutôt 2 ou 3 ans. Et l'étude qu'on a menée, nous, en interne chez Fairphone, quand on a fait notre analyse de cycle de vie, c'est que quand on porte à 7 ans la longévité de nos téléphones, on réduit de 44% l'empreinte carbone par rapport à la moyenne des 2 à 3 ans que je viens de citer. Donc, voilà. Donc, il y a une vraie preuve par le chiffre qu'il est important de faire des téléphones qui durent.
Oui, donc c'est vraiment une idée reçue. Hein. Alors je ne sais pas si ça va bien au-delà des téléphones, mais j'aurais tendance à penser que oui, que finalement c'est la fabrication qui consomme le plus d'énergie et qui a le plus d'impact environnemental. Alors tu as utilisé plein de termes tout à l'heure, je te laisse un tout petit peu de temps pour les relister et nous les expliquer après que Tristan aura parlé, si tu veux bien.
Oui.
Merci à toi.
Bien sûr.
Tristan ?
Oui, bonjour.
Bonjour Tristan.
Bonjour à tous et toutes.
Et tout, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais professionnellement et même personnellement, hein, en lien avec le logiciel libre éventuellement, et ce que tu as fait peut-être par le passé aussi, puisque on te connaît aussi pour d'autres activités précédemment à Scaleway.
Absolument, donc je m'appelle Tristan Ito, j'ai 56 ans, je suis informaticien de formation, je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit, puisque j'ai appris à programmer tout seul à 14 ans. Ça m'a donné envie de faire carrière dans ce métier. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire ? Aujourd'hui, je suis responsable du développement durable chez Scaleway. Schkelwe, c'est une filiale de Iliad, la maison mère de Free. Donc nous, on est hébergeur de services cloud, en cloud service provider, comme on dit in English. Voilà, si vous utilisez des services sans vous en rendre compte, il y en a, ils tournent en bonne partie dans le cloud, pas simplement dans votre smartphone ou dans votre PC. Hein, si vous utilisez un email indirectement, vous utilisez des serveurs dans le cloud. Si vous utilisez par exemple l'application GeoVélo que j'ai utilisé pour venir, eh ben, c'est quelque chose qui tourne chez Scaleway. C'est pas Scaleway qui le fait, mais il faut, Scaleway loue des serveurs à cette entreprise pour pouvoir faire tourner ce serveur et que votre téléphone, quand il se connecte, eh ben, il a une réponse pour avoir un itinéraire vélo pour venir, par exemple, jusqu'au studio. Et la raison, ce qui m'a fait connaître plutôt, c'est mon travail chez Mozilla. Puisque j'ai eu la chance de travailler chez Netscape. Alors là, normalement, il y a les vieux qui versent une petite larme. Chez Netscape, qui était l'entreprise qui a fait le premier navigateur commercial et qui a eu vraiment du succès et qui a lancé la révolution du web. Et ce Netscape a lancé le projet Mozilla, qui a donné Firefox. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui, au départ, était là pour lancer Mozilla. Et donc ensuite Firefox. J'ai présidé longtemps Mozilla Europe, qui était à l'époque dans mon salon, une association toute modeste, et qui a fait Firefox dans toute l'Europe, dans toutes les langues. Et on a amené tout ce qui était nouvelle langue pour Firefox, parce que mes collègues américains, eux, quand ils avaient fait une version en anglais, ils étaient contents, ils pensaient que c'était fini. Et nous, on leur dit, en catalan, et etc., en français, en espagnol, en italien, en hollandais, en polonais, en allemand, etc. Et puis, on a lancé Firefox en Europe. Voilà.
Très bien. Alors, on avait eu un petit échange téléphonique au sujet de Firefox, donc qui est un navigateur, pour ceux qui font bien la distinction entre navigateur et moteur de recherche. Et tu m'avais un peu raconté aussi l'histoire avec le moteur de recherche Google, comment ça s'était articulé avec Firefox. Est-ce que tu peux peut-être nous le faire en 3-4 minutes maximum?
Un navigateur web, c'est ce qui affiche les pages web dans ton terminal, ton smartphone ou ton ordinateur. Et un moteur de recherche, c'est la partie qui te dit, quand tu tapes un mot-clé, qui va te dire sur quelle page web tu peux trouver l'information, pour faire très simple. Donc, si tu fais un parallèle avec la télévision, le navigateur, c'est ce qui affiche les pages web. Et là, je vais faire attention, ça va être une référence de vieux. Alors que le moteur de recherche, c'est un peu le guide télévisé, c'est un peu le Télé 7 jours. Ça n'existe plus, Télé 7 jours. Bon, ça va, tu sais, moi, je regarde plus la télé.
Frédéric Couchet nous précise qu'a priori, ça existe encore.
Ça existe encore, visiblement, il est toujours abonné. Hein. Enfin, il a l'air surexcité par cette perspective. C'est très, très bien. Donc, lisez, c'est Fred qui nous dit, lisez Télé 7 jours. Enfin, si vous avez, moi, j'ai plus de télé. Donc, bon, le problème ne se pose pas. Mais bon, voilà, ça vous donne des informations. Et évidemment, quand vous fournissez un navigateur, l'internaute, il ne sait pas forcément où il veut aller. Il a besoin d'un moteur de recherche pour s'orienter. Et nous, on s'est dit, on va en mettre un qui est bon. Parce qu'en plus, les gens ne font pas bien la différence entre le navigateur et le moteur de recherche. Parce que le navigateur affiche le moteur de recherche. Donc, tu as un peu l'impression que c'est un peu le même gloubi-boulga. Et même si techniquement, ce sont deux choses très différentes. Dans l'esprit du utilisateur, c'est pas forcément différent. Et donc, on avait pris ce qui, à l'époque, était le meilleur moteur de recherche, et peut-être est toujours le cas. Et on avait fait un deal avec Google en disant, on n'avait même pas fait de deal, on avait mis Google comme page d'accueil par défaut. Et Google a dit, mais ça nous apporte beaucoup de visites, cette chose-là, et c'est vachement pratique, c'est vachement bien. Et à ce moment-là, Google nous a proposé à Mozilla de faire un chèque tous les trimestres pour que ça reste comme ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Merci, c'est important de
préciser. Si j'ai Merci Fred. On précisera juste, parce que je crois que ça n'a pas été fait, que Firefox est un logiciel libre.
Ah, c'est essentiel de le rappeler, effectivement.
C'est essentiel de le rappeler, je pense.
Merci Étienne pour cette précision, effectivement, qui pour nous coule de source, mais qu'il est toujours bon de rappeler.
Et ce qu'il y avait de sympa à l'époque, c'était à peu presque la première fois qu'on avait un logiciel libre qui s'adressait vraiment au très très grand public, qui était super facile à utiliser. Avant, ça a un petit peu aidé le libre à sortir de son image de geek et à se rendre au point d'ailleurs qu'on oublie de dire que c'est un logiciel libre, mais c'est toujours un logiciel libre. Et il est fait pour être super convivial. C'était un peu une révolution à l'époque. Même pour nous, développeurs de Mozilla, c'était « Ah bon, faut vraiment leur dire qu'il faut l'installer sous Windows ?» oui, mais tu vois, les gens, ils sont sous Windows, donc il faut d'abord parler de Windows avant de parler de Linux. C'était pas évident.
Oui, ça a quand même été un bel étendard pour le libre, effectivement, pour promouvoir le libre à l'époque.
Et il vient de fêter ses 18 ans, donc ça ne nous rajeunit pas cette affaire.
Effectivement, merci. Alors, je vais revenir vers Agnès. Alors, je ne sais pas si elle a refait la liste de tous les mots difficiles qu'elle avait utilisés tout à l'heure, mais je veux bien que tu les, si possible, que tu nous les expliques et tout ce que ça sous-tend derrière. J'ai pas eu le temps de les noter, j'en suis désolé, mais il y avait plein de termes intéressants qui parlaient d'humain, qui parlaient de voilà, qui parlaient
de ressources abiotiques, par exemple.
Voilà,
j'ai entendu
par exemple
ça tout à l'heure.
Oui, j'ai entendu ça aussi. Voilà.
Oui, bon, rapidement, en gros, quand on s'interroge au coût environnemental du numérique, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la seule empreinte carbone, qui est un indicateur, mais c'est pas le seul. Et donc, là, c'est pas Fairphone qui parle, c'est vraiment toute personne un peu sérieuse qui fait ces fameuses analyses du cycle de vie. Il faut s'intéresser à d'autres facteurs, donc typiquement l'écotoxicité, donc en quoi la production d'un téléphone, par exemple, va avoir des conséquences typiquement dans certains pays africains dus à l'exploitation minière, ce genre de choses, quoi. C'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Et les ressources abiotiques, c'est les ressources typiquement minérales, donc les ressources non vivantes. Et là, je pense que maintenant, les personnes qui nous écoutent sont peut-être un peu plus conscientes de ces problématiques-là. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années des problématiques de minerais. Guillaume Pitron a sorti son fameux livre il y a 5 ans sur la guerre des métaux rares. Donc voilà, les gens commencent à comprendre qu'il y a des soucis avec les minerais. Et bien, c'est ces fameuses ressources abiotiques. Et quand on fait ces analyses du cycle de vie, eh bien, on s'intéresse pas uniquement aux émissions de gaz à effet de serre, dont l'empreinte carbone, mais aussi à la consommation de ces ressources. Aussi l'énergie primaire. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous ces éléments-là sont des choses à regarder. Et à regarder non pas sur l'usage, uniquement sur l'usage du produit, du téléphone, du laptop ou ce que vous voulez, mais sur sa vie totale. Donc sa vie, elle commence à notre téléphone, si je parle que des téléphones, elle commence au moment où on va sourcer les fameux minerais. Et elle termine, la vie du téléphone, elle termine sur l'étape où on va essayer de recycler le téléphone, par exemple. On va essayer de le démanteler pour pouvoir réutiliser certaines parties dans le meilleur des cas. Donc l'analyse du cycle de vie, elle est essentielle pour avoir une vision globale du coût du produit. Et pourquoi je dis de pas uniquement s'orienter sur l'usage? Parce qu'on est un peu baigné aujourd'hui par des discours très marketing qui nous poussent à utiliser de l'électrique à tout va, je suis anti-électrique, mais en disant bah ouais, c'est quand même vachement mieux d'avoir une voiture électrique, par exemple, hein. Je prends l'exemple de la voiture électrique, parce que bah voilà, ça, c'est beaucoup mieux quand on utilise sa voiture pour faire Saint-Étienne-Paris, par exemple, j'habite à Saint-Étienne. On aura le coût environnemental du trajet qui sera évidemment moins important que si on utilisait du gasoil, certes, mais si on regarde l'intégralité de la vie de cette voiture, le coût environnemental de la production d'une voiture électrique est assez élevé. Beaucoup plus qu'une voiture thermique, par exemple. Parce que si je parle des grosses voitures avec des grosses batteries qui consomment beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, etc., bah, le coût d'extraction des minerais que je viens de citer est assez important. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est pour essayer d'expliquer ce terme un peu obscur que j'ai précité dans mon introduction. Très important de faire l'analyse du cycle de vie, de mesurer ces différents facteurs, ressources abiotiques, gaz à effet de serre, écotoxicité, human toxicité, etc. Human toxicité, c'est l'impact sur les hommes et les femmes, quoi. L'impact des problèmes environnementaux. Et très important aussi de ne pas se focaliser uniquement sur l'usage, mais de s'intéresser à toutes les étapes du cycle de vie de notre projet, de notre produit.
Mais j'imagine, alors il y a deux choses peut-être. Alors de fait, quand on met des offres pour racheter plus facilement une nouvelle voiture électrique, finalement c'est juste pour pousser le commerce, mais on se soucie pas finalement de la question environnementale. C'est une vraie question que je pose, hein, puisque ça a l'air en tout cas similaire à la problématique des téléphones et de la durée de vie des téléphones. Ça c'est peut-être ma première question. Et puis j'ai oublié ma deuxième question, donc elle reviendra tout à l'heure, c'est pas grave.
Ouais, bah alors sur l'histoire du rachat, ça s'applique aussi au téléphone, hein, by the way. En gros, quand on te pousse à changer ton téléphone parce qu'il peut avoir une deuxième vie pour finir en téléphone reconditionné, etc. En fait, il n'y a pas une seule réponse, mais il y a une des réponses et potentiellement oui, c'est toujours mieux de pouvoir utiliser ce fameux produit, hein, qui lui allonger un peu son cycle de vie. Mais il y a une problématique aussi dans cette dans ce focus qui est justement uniquement sur le recyclage ou le reconditionnement, on va dire. C'est que faut pas que ça devienne une excuse pour une surconsommation en fait des produits, que ce soit la voiture ou le téléphone ou le laptop. Donc typiquement, quand on me dit ou quand j'entends, récemment j'ai entendu une conférence où il y avait des gens qui disaient, des speakers sur scène, hein, qui disaient oui, bon les gars on s'en fout un peu, vous pouvez acheter un téléphone chaque année, vous le remettez sur Back Market et on n'en parle plus. Bah non, hein. Non. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Il peut aller sur Back Market et peut-être qu'il sera racheté, mais là n'est pas le problème. Il faut arriver toutes et tous à garder plus longtemps nos produits. Et le fait d'allonger la vie de son téléphone, oui, ça va pouvoir servir. Mais il faut vraiment qu'on change toutes et tous de mode de consommation, en fait. L'idée, elle est là. Et il y a beaucoup de boîtes aussi, hein, beaucoup de concurrents à Fairphone qui, justement, misent aussi là-dessus, hein, qui incitent les consommateurs, consommatrices à vouloir changer leur téléphone. On parle aussi des opérateurs. C'est pas que les fabricants de téléphone. Il y a aussi des opérateurs qui poussent. On a tous connu, hein, l'époque, maintenant, ils sont un peu plus réglementés. Mais vous avez tous connu ces périodes où on vous proposait d'avoir un téléphone nouveau tous les 2 ans. Maintenant c'est un peu plus réglementé, ça devrait être justement un peu plus cher de faire ça, mais pendant longtemps vous pouviez avoir un téléphone tout neuf juste parce que vous alliez renouveler votre contrat chez un opérateur quelconque de français, quoi. Donc ça pousse justement les personnes, les consommateurs, consommatrices à changer de téléphone.
Oui, il y a un côté normalisation. C'est-à-dire que si tout le monde autour de soi change son téléphone, eh bien le mien, j'ai qu'à le foutre sur Back Market et puis je vais le changer aussi. En fait, il y a un peu une perméabilité. Enfin, les gens sont sensibles à ce que fait leur entourage et ils peuvent, si leur entourage leur montre le mauvais exemple, et ils vont aussi le reproduire et changer. Alors que si on se décide à garder notre téléphone plus longtemps, autour de soi, moi j'ai un smartphone, il a 4 ans et j'ai pas prévu de le changer. Et en fait, ça va faire tache d'huile dans le bon sens et ça va pousser les gens à pas renouveler leur téléphone. Mais pour revenir rapidement sur la voiture, est-ce que la voiture électrique va nous sauver ? Il faut juste rappeler que la voiture électrique, elle n'est pas là pour sauver la planète, elle est là pour sauver l'industrie automobile. Hein. C'est essentiellement ça. Ne perdons pas ça de vue.
Le marketing est pervers de ma part, bien sûr.
Voilà. Il fallait que ça soit dit. C'est fait.
C'est fait, je te remercie. Alors j'ai retrouvé ma question entre-temps, Agnès, et du coup, par rapport à l'analyse du cycle de vie complet d'un appareil, j'imagine que c'est pas facile de mesurer ça finalement, l'énergie consommée tout au long du cycle de vie de l'appareil.
Disons que c'est pas une tâche que tu peux faire en un week-end, mais c'est des choses qui sont complètement. Nous, on fait appel à un service d'un institut germanique qui fait référence, qui s'appelle l'Institut Fraunhofer. Tu utilises un tierce parti, tu payes cet institut et ils viennent enquêter sur ce que tu fais pendant plusieurs semaines pour pouvoir sortir un audit. Donc il n'y a rien de compliqué en fait. Il n'y a rien de compliqué. On conseille, nous, on pourrait le faire en interne, mais on conseille de le faire à un organisme indépendant pour qu'il y ait justement cette impartialité, on va dire. Et dans tous les interviews qu'on a avec l'ARCEP, qu'on a avec le gouvernement français sur qu'est-ce qui pourrait en fait être une norme pour essayer de comparer un peu les fabricants, on pousse pour ça, on pousse pour que justement il y ait des instituts indépendants comme le Fraunhofer qui puissent faire ce genre d'études, d'analyse du cycle de vie pour des produits électroniques. Donc en gros, qui est l'obligation du fabricant de téléphone à, lorsqu'il sort son nouveau produit, à fournir cette analyse du cycle de vie. Donc il n'y a rien de compliqué. Même Fairphone arrive à payer ce genre d'institut. Donc si Fairphone y arrive, je pense que c'est pour montrer aussi que d'autres peuvent y arriver.
C'est possible.
L'anecdote qui n'en est pas vraiment une au final, mais on dit souvent chez Fairphone, les fondatrices, fondateurs de la boîte disent souvent, la raison d'être de Fairphone, c'est vraiment d'être le poil à gratter, le moustique dans la chambre, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, mais d'être la structure qui embête un peu les autres et qui veut montrer qu'on peut agir de manière plus responsable dans l'industrie électronique. Donc typiquement, à la question, est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué de faire du support long logiciel sur un téléphone Android ? C'est pas simple, mais c'est possible. Donc c'est toute la démarche qu'on a chez Fairphone, c'est de vraiment montrer un exemple et pousser l'industrie à agir de manière plus responsable.
Ben merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, je vous avais proposé de parler de vos missions professionnelles, mais vous pouvez aussi parler de vos missions personnelles. Alors, peut-être que tu peux évoquer l'Octet Vert, Tristan ?
Oui, alors moi ça fait un bout de temps que je voulais parler de climat. C'est moi je suis une grosse feignasse et j'aime pas travailler en fait, et donc j'ai trouvé la solution, comme il faut bien quand même croûter et nourrir ses enfants, j'ai trouvé la solution. Je m'attaque à des problèmes compliqués qui m'inspirent, qui m'excitent. Alors ça a été le web ouvert, ça a été le logiciel libre, et puis lors de la démission de Nicolas Hulot, j'ai eu comme un électrochoc et c'est devenu et si je m'occupais du climat, j'ai compris, c'est vraiment une nouvelle prise de conscience à ce moment-là, qu'au niveau du climat, on était quand même sacrément mal barré. Et du coup, je me suis orienté vers le développement durable. Alors, chez Scaleway, on parle l'anglais, donc on dit sustainability, mais c'est le développement durable. Et avant d'arriver chez Scaleway, je me suis dit, comment est-ce que je peux montrer tout ce que j'ai appris personnellement et le montrer que je suis compétent sur le sujet. Et ça m'a décidé à lancer un podcast qui s'appelle L'Octet Vert. Et c'était pas tant pour parler de moi, c'était pour aller à la rencontre de tas de gens que j'avais trouvé super intéressants dans mes conversations. Et j'ai commencé à interroger des gens, dont une certaine Agnès Crépé, qui, je dois le dire, Agnès, je peux le dévoiler, tu es mon épisode préféré de L'Octet Vert. Donc voilà, ça a donné un podcast qui s'appelle L'Octet Vert, et dans lequel j'ai eu 35 invités, autant d'hommes que de femmes, à peu près, parce qu'ils sont 35. Donc il y en a forcément un qui est plus nombreux que l'autre, mais j'ai essayé de respecter la parité. C'est des gens qui agissent dans leur métier, donc l'octet vert, comme son nom l'indique, comme un kilooctet, un mégaoctet, ça parle de numérique, vert de climat et de changement climatique, et puis de bonne humeur aussi, parce que comme le sujet peut être plombant, moi j'avais envie qu'on ait des moments légers, quoi, et finalement on rigole bien en discutant de choses graves, avec ces 35 invités. J'en ai fait deux saisons, là, comme j'ai commencé un nouveau job, j'ai un peu la tête sous l'eau, l'octet vert est en pause, mais je ne désespère pas de recommencer une troisième saison prochainement.
Merci, donc on mettra la référence sur la page de l'émission, hein, y a pas de souci.
Voilà. Si vous avez envie de rigoler, d'apprendre des trucs et d'être inspiré par des gens sympas et qui font des choses super cool comme Agnès Crépé, c'est l'Octet Vert.
Merci Tristan. Alors j'avais prévu de vous poser la question de savoir comment vous aviez vu évoluer la question énergétique dans le numérique ces dernières années. Du coup, vous avez du recul, donc c'est intéressant que vous puissiez exprimer un peu cette vision-là. Donc on va commencer par Tristan et puis après Agnès, je te passerai la parole. Comme ça te laisse un peu plus de temps pour réfléchir à la question.
Eh bien, moi j'ai trouvé que, et je pense que c'est toujours le cas, c'était un sujet où personne n'y comprenait rien, ne savait rien. On a tous commencé en fait en se disant, c'est un peu la réflexion par défaut, c'est ah ouais, mais bon, ça va, ça consomme pas trop.
C'est le cloud, quoi.
mais non, et à pas se rendre compte des choses, à justement être pas du tout dans une optique ACV, donc analyse du cycle de vie, comme disait Agnès. L'ACV, c'est donc prendre toute la vie du produit, depuis sa production, sa création, son utilisation, sa réparation, son recyclage, et mais aussi multicritères. Et ça, ce mot multicritère, il est essentiel. C'est pas juste un problème de climat, de CO2, de gaz à effet de serre. C'est aussi l'épuisement des ressources abiotiques, la toxicité de la fabrication, etc. Enfin, c'est vraiment très important. Et au début, on n'y connaissait rien. Et je dois reconnaître qu'encore aujourd'hui, il y a des débats qui sont compliqués, sur lesquels on n'a pas complètement tranché. Il n'y a pas de manière claire d'expliquer à quel point le streaming est un problème. À quel point supprimer ces emails est important. En fait, il y a eu beaucoup de mauvais débats ou de débats faussés, et j'espère qu'on est en train de revenir, au fur et à mesure que la recherche scientifique évolue et que les idées sont plus claires, qu'on arrivera à avoir des débats qui sont plus sereins. Moi, j'ai des souvenirs de débats sur la 5G qui sont très compliqués, où certains te disaient « Oui, mais attendez, la 5G, ça va consommer moins. » La réalité, c'est qu'en fait, ça va pousser les gens à consommer de la data et qu'il va quand même falloir refabriquer et redéployer des antennes. Donc, le sujet, finalement, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait dire. Ah oui, peut-être qu'à un instant T, la 5G va consommer moins que de la 4G. Et les gens vont dire, oui, mais attendez, en même temps, la consommation de data augmente. Oui, parce qu'en fait, on l'a permise. Mais bon, de fait, elle augmente et donc, il faut changer d'infrastructure. Enfin, tout ça, c'est juste un exemple que le sujet est hyper complexe et que jusqu'à présent, on se basait sur des informations qui étaient pas mal biaisées, en fait, parce que bah, évidemment, on a tous plus ou moins un intérêt, dans un sens ou dans l'autre, à ne pas dire la vérité, finalement, ou à la présenter de la façon la plus flatteuse possible. Ça s'est pas mal amélioré. Et on se rend compte, comme le disait Agnès tout à l'heure, que le principal problème, c'est le coût, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire carbone, mais pas seulement, de la fabrication des terminaux. Mais après, il y a toute une phase utilisation qui est pas simple et avec des problématiques qui sont très différentes suivant les endroits où tu te trouves. Si tu es en France et que tu alimentes, alors ton smartphone, en fait, il consomme très peu. Hein, donc vraiment, le gros problème du smartphone, c'est sa fabrication parce qu'il est vraiment, c'est un concentré de technologie et avec une très faible consommation. Donc évidemment, là, le poids, c'est la fabrication du smartphone versus son utilisation. Dans un data center, c'est pas la même chose. Mais si ce data center, tu le mets en France et que tu l'alimentes avec de l'électricité nucléaire et des barrages hydroélectriques, ton électricité, elle est peu carbonée. C'est-à-dire qu'elle émet peu de gaz à effet de serre au moment où tu la produis. Hein, pour donner un exemple aux gens, si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas forcément, mais un kilowattheure d'électricité nucléaire, c'est en gros 6 grammes de CO2 émis. C'est très très peu. Si tu fabriques le même kilowattheure, mais tu le fais en Pologne, donc à base d'une usine, d'une centrale qui marche au charbon, qui est donc un vrai cauchemar, et là, tu brûles en fait du carbone et ça s'en va dans l'atmosphère, et là, tu es plutôt dans les 700 grammes, tu vois, versus les 6 grammes. Donc on est plus de 100, 120 fois plus que en Pologne que en France. Donc
mais comment beaucoup... t'intègres après dans tous ces calculs-là les accidents potentiels comme Fukushima ou ce qu'il y avait.
Ah non, mais alors c'est sûr que le nucléaire n'a pas que des avantages, mais c'est pas des problèmes de réchauffement climatique. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire tu fais
mais
Fukushima.
C'est pas intégré dans la durée de vie des produits, enfin dans le calcul d'émissions de CO2, c'est autre chose.
C'est du risque. Ça n'est pas du gaz à effet de serre. Okay. Je suis pas en train de faire un chèque en blanc. Non. Pour nucléaire, hein, mais en tout cas sur les émissions de CO2, ça fait partie de la solution avec d'énormes défauts derrière. Et c'est pour ça que ces débats ils sont super compliqués à avoir. C'est qu'il y a des tas de gens qui ont très peur du nucléaire. C'est de la peur, c'est de l'émotion, tu vois. Il y a des gens qui ont structuré leur pensée autour du le nucléaire c'est mal. Enfin, je pense en particulier aux écolos, tu vois, les Greenpeace et compagnie. C'est des gens. Je ne suis pas en train d'en dire du mal. Hein. Factuellement, ce sont des gens qui ont construit leur mouvement contre le nucléaire. Tu vois, ça les a structurés. Et si, tout d'un coup, on commence à dire le nucléaire fait partie de la solution, c'est des choses qui ne sont pas entendables pour eux. Et ça ne simplifie pas le débat autour de tout ça. Donc, globalement, ça s'améliore, mais le débat reste hyper technique, hyper, hyper compliqué et effectivement avec des problématiques politiques autour.
Avant la pause, je laisse la parole à Agnès sur la même question. Et puis du coup, j'en rajoute une deuxième. Est-ce que la gratuité qu'a offert les GAFAM n'est pas venue justement rajouter une couche de complexité dans les débats ? Peut-être que tu peux aussi répondre à ça, Agnès, par rapport à ce que tu espérais répondre.
Ouais. Alors sur la question énergétique dans le numérique sur ces dernières années, si on regarde un petit peu, certes, il y a eu différents rapports et puis des chiffres qui n'étaient pas forcément justes, mais quand même, la plupart des rapports s'accordent à dire qu'aujourd'hui, on est à peu près 4%, le numérique aujourd'hui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, et puis on peut s'attendre à un doublement d'ici quelques années, 3, 4, 5 ans. Donc, moi, je pense sincèrement que l'efficacité énergétique qui peut être due au progrès technologique, elle ne va pas suffire à compenser l'augmentation des usages. Et donc, pour revenir toujours à mon cheval de bataille sur qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, face à cette situation-là, c'est que ce serait quoi les solutions ? Bah, première solution, arriver à, je l'ai dit déjà longuement, à faire des appareils et des solutions qui durent. Arriver à réduire... la quantité de toutes les ressources numériques qu'on peut utiliser, donc que ce soit nous individuellement, mais aussi au sein des organisations. Hein, on a la loi RIN, on pourra reparler, qui est passée en novembre 2021 pour inciter justement au moins les infrastructures publiques de favoriser l'usage des produits numériques sur le long terme. Éventuellement du reconditionné, etc. Ça couvre aussi l'éco-conception du travail numérique. En redonnant aussi, moi si je pense aux solutions, il y a aussi le fait de redonner le contrôle aux utilisateurs. Donc là, ça rejoint ta question sur les GAFAM. Si on permet aux utilisateurs, utilisatrices de choisir leur mise à jour logicielle, par exemple, de choisir leur système d'exploitation, eh bien, on peut arriver à des choses plus durables. Typiquement, je crois que c'est dans la loi RIN, si je ne me trompe pas. Mais on a quelque chose qui est passé, qui est un petit peu inaperçu. pas beaucoup de médias, en tout cas, l'ont noté. Mais le texte dit que les techniques qui empêchent le consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son appareil au bout de 2 ans, si je ne me trompe pas, bah, ces techniques sont proscrites, sont interdites. Bah, ça, c'est chouette. Ça veut dire que ça va inciter typiquement la plupart des fabricants à avoir un bootloader unlockable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, tu peux installer quelque chose d'autre que...
Un programme de démarrage. Oui, je me permets de préciser. Un bootloader, c'est le programme de démarrage de l'appareil électronique.
Exactement. Ce qui boot l'appareil, exactement. Ce qui te permet de booter ton système d'exploitation. Et ben, imagine, ce truc-là, cette solution technique, elle a une porte qui te permet, une solution by design qui te permet d'installer quelque chose d'autre. Je vais le tourner comme ça, plus simplement. Et ben, ça veut dire que plutôt que d'avoir un Android certifié, tu vas pouvoir faire tourner un Android alternatif sans trop de tracker Google, ou tu pourrais installer Ubuntu Touch ou Postmarket OS ou je ne sais quelle solution basée uniquement sur Linux. Il y a aussi des systèmes qui existent comme ça.
Et qui sont souvent
là,
plus...
c'est un vrai... Pardon, excuse-moi.
Non, je t'en prie. Et qui sont souvent plus légers, qui effectivement embarquent moins de... Enfin, il y en a qui constatent quand même une différence de consommation de l'appareil lorsque c'est un système alternatif, alors que quand c'est l'Android natif qui envoie de la donnée sans cesse, etc., ça consomme beaucoup plus rapidement, ça vide beaucoup plus rapidement
oui,
la batterie.
Oui, effectivement, ça vient des quantités de data aussi, hein, voilà. qui sont échangées, qui sont transitées.
Et à préciser aussi...
Oui, oui.
Et il faut ajouter, et je ne vais pas le faire faute dans le sac, mais il faut ajouter que si tu es un grand constructeur de smartphones, tu as tout intérêt en fait à ce que ta machine elle tombe en panne ou elle soit moins excitante pour le consommateur au bout de 2 ans, parce que comme ça, il va en racheter un nouveau. Mmh. Tu vois. Donc maintenir du logiciel longtemps, ça ne les intéresse pas forcément. Permettre la réutilisation et l'installation de systèmes alternatifs, ça ne les intéresse pas vraiment. Bref, tu vois, il faut qu'ils soient contraints. Parce que sinon, ils sont très contents que ton smartphone, tu le balances au bout de 2 ans pour en racheter un nouveau. Hein. Faut quand même donc rappeler, un smartphone en moyenne en Occident, ça dure 23 mois. Hein. Et dans 80% des cas, quand il est balancé, il fonctionne encore. Donc c'est vous dire qu'on marche complètement sur la tête. Parce que c'est pas la tendance, hein, rappel, pour aller vers l'accord de Paris, en gros, pour sauver la civilisation sur cette planète, il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre en France, hein, par 5, là, on émet 10 tonnes par français, il faut descendre à 2 tonnes d'ici 2050, donc il faut vraiment réduire, il faut appuyer très très fort sur le frein. Et à côté de ça, on continuerait à jeter des téléphones qui ont coûté une énergie dingue tous les 2 ans. On marche sur la tête. Et pareil au niveau du numérique, puisque ça consomme 4%, ça produit 4% des gaz à effet de serre et que ça risque de doubler, mais il faut arrêter. Enfin, il faut freiner, quoi. Il faut trouver des solutions. L'urgence, elle est là, quoi.
Il y a un rapport que j'ai lu là, il y a quelques semaines là, du W3E qui disait même des chiffres qui rejoignent ce que tu dis Tristan, on est aujourd'hui à 16 milliards de téléphones possédés dans le monde et il y en a 5 milliards qui vont devenir de l'e-waste, donc de l'électronique, des déchets électroniques en 2022. Donc là voilà, ça parle aussi en termes de chiffres, imaginez c'est ce qu'on est en train de produire dans cette surconsommation. Elle devient complètement dingue, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'entends le fait de dire « Allez les gars, achetez des téléphones nouveaux chaque année, on s'en fout, on est riches.
Ouais, »
Et mettez vos téléphones anciens sur Black Market. Non, 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 on garde nos téléphones, on essaye de les, d'allonger la durée de vie de nos appareils. Ça, c'est clé. Donc voilà, pour répondre à la question et avec le lien sur les GAFAM, je pense que quand on donne le contrôle à l'utilisateur, à l'utilisatrice, on peut arriver à quelque chose d'intéressant sur le côté privacy, mais aussi sur le côté longévité. Tous les OS alternatifs ont une durée de vie plus longue. Si je parle, si je pense à LineaWedge, qui est un des plus gros systèmes alternatifs Android, ça tourne sur... plus de 100 devices et c'est des mises à jour qui durent sur non pas 2 à 3 ans mais plutôt 5, 6, 7, 8
ans. Ça tombe sur plus de 100 systèmes d'exploitation différents, enfin appareils différents plutôt, pardon, devices, pour traduire pour les gens qui ne sont pas...
voilà. Oui, pardon, alors, sur plusieurs, voilà, et exactement, ouais. Et puis ça permet surtout, tu vois, tu as un vieux Samsung qui traîne chez toi, qui n'a plus de mise à jour logicielle parce que voilà, Samsung a droppé le support, donc tu as plein d'apps qui ne vont plus marcher, du coup tu peux unlocker ton téléphone et installer un système alternatif. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant parce que du coup, ça allonge. On dit souvent que les systèmes alternatifs, c'est super pour le côté privacy, bien sûr. Mais c'est aussi bien pour le côté longévité. C'est aussi bien pour le côté longévité. Et je suis très contente de voir qu'il y a quand même un arsenal législatif qui commence à se mettre en place pour essayer de bannir du marché des pratiques non responsables. Typiquement, le fameux bootloader dont je parlais qui devrait être unlockable, quoi. On peut l'unlocker pour pouvoir installer ce que tu as envie sur ton téléphone.
Merci Fred. Alors, je pense que comme l'échange est vivant et passionnant, on va exceptionnellement pas faire de pause musicale, on va laisser l'échange continuer, mais c'est intéressant que tu parles de ce bootloader et de cette loi RIN qui est donc...
REEN, pour ceux qui cherchent.
Empreinte, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, parce qu'en fait, c'était à la base une proposition de l'April pour les interdire tout bonnement, et ce délai de 2 ans a été ajouté par un député de la majorité. C'est, en gros, ça correspond à la délai de conformité légale. Donc, c'est un ralentissement aussi de la démarche. Voilà. Et on porte cette idée qu'effectivement, un pilier pour une informatique plus durable doit être le respect des libertés des utilisateurs et des utilisatrices, qui a tendance, malheureusement, j'ai l'impression, à être perçu comme un frein à la durabilité, parce qu'une forme d'infantilisation de ces personnes, alors que vraiment, c'est vecteur, au contraire, de durabilité, quoi, liberté informatique. Mais je vous laisse, du coup, poursuivre.
Ben, alors, moi, je vais m'enfoncer le clou, et on va peut-être parler des PC. Hein, aujourd'hui, avec... c'est quoi la nouvelle version de Windows? C'est Windows 11, c'est ça?
Je crois qu'on en est là, oui.
Voilà, ouais. C'est dramatique, parce qu'en fait, aujourd'hui... Et ça, elle n'est compatible qu'avec la moitié du parc. C'est-à-dire que ça exige des fonctionnalités qui sont dans le PC matériellement. Et si ça y est pas, ça refuse de fonctionner. Ça pourrait, mais ça refuse. Et donc, ça veut dire que la mise sur le marché de Windows 11, ça rend obsolète la moitié du parc de PC installés aujourd'hui. Alors que justement, il faudrait les faire durer le plus longtemps possible. Et c'est là que Linux, ou plutôt, devrais-je dire, GNU Linux, entre en jeu et permet de faire durer du matériel et utiliser très longtemps du matériel pour ne pas avoir à le jeter, et donc avec du matériel ancien mais qui fonctionne encore, hein, parce que le silicium, ça s'use très très peu quand on s'en sert. C'est juste que c'est rendu obsolète par la loi de Moore, enfin par le progrès des puces. Mais c'est juste que c'est démodé, en fait, et qu'on fait des logiciels qui vont tirer parti des nouvelles puces plus puissantes, et qui donc, en comparaison, ce nouveau logiciel, il va se traîner sur du matériel qui a quelques années, et donc les gens, ils vont remplacer ce matériel qui fonctionne parfaitement, juste parce que le logiciel se traîne. En fait, c'est le logiciel qui rend obsolète le matériel, alors que le matériel fonctionne très bien. Donc des solutions comme GNU Linux, que tu installes, qui sont plus légères et donc vont te permettre de faire durer le matériel. Et c'est ainsi que tu te retrouves à pouvoir faire durer du matériel très très longtemps grâce à GNU Linux et du logiciel libre. Donc c'est la classe.
Voilà, les logiciels libres contribuent à faire durer le matériel. Ça, c'est peut-être une...
Et donc, sauver la planète. Il faut que ce soit dit.
Entre autres. Du coup, je me permets de passer à la question suivante. Alors Tristan, tu as un peu répondu tout à l'heure, donc je vais plutôt passer la parole à Agnès, mais finalement, quels ont été les éléments déclencheurs ou peut-être un cheminement d'ailleurs plus long qui vous a fait vous intéresser aux questions énergétiques et de transition dans le numérique? Agnès?
Ouais. Me concernant, on va dire que c'est un break professionnel. Donc il y a 10-12 ans, j'ai arrêté de bosser pendant un an et avec mon conjoint, on a fait une espèce de tour de certains pays un peu éloignés de chez nous pour voir ce qu'était le métier de développeuse ou de développeur, parce que lui aussi est développeur, un peu loin de chez nous. Et voilà, on a rencontré des gens en Indonésie, en Afrique, on a bossé un petit peu en Afrique. Enfin bon, bref, tout ça nous a fait poser beaucoup de questions. Alors, c'était pas forcément que sur l'angle numérique responsable, responsable du point de vue écologique, mais plus d'un point de vue éthique plus large. On s'est dit que, en tant qu'ingénieur développeur, on avait tout intérêt à peut-être bifurquer. C'était peut-être pas un mot qu'on employait encore beaucoup à l'époque, mais que nos 40 heures par semaine, on pouvait les passer ailleurs, en fait. À une tech, moi je pense pas que la tech sauve le monde, ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue sociétal, mais je pense que le monde a besoin d'une tech plus responsable, voilà, c'est ça, et que si des gens comme nous on pouvait contribuer à ça, ça serait pas mal. Donc du coup, quand on est revenu de ce break d'un an, en ayant rencontré des gens très inspirants, aujourd'hui je suis plus inspirée par des gens, des personnes africaines ou indonésiennes que par des gens de la Silicon Valley.
T'es pas fan d'Elon Musk?
Mais même des petites boîtes, hein, même des plus petites start-up, voilà, je ne regarde plus du tout. En fait, je m'intéresse vraiment très très peu à ce qui se passe aux États-Unis, mais vraiment, il y a des choses par contre incroyables à suivre au Togo, en Indonésie. Il y a vraiment des gens qui font des choses de dingue. Et avec toutes ces inspirations là, que je me suis ramenée de mon voyage, j'ai voulu faire des choses différentes. Donc j'ai commencé par monter ma boîte en essayant de bosser avec des copains qui s'appellent Ninja Squad pour essayer de bosser pour des gens, mais pas toutes les boîtes, on va dire. Voilà, j'ai rejoint Fairphone. Donc pour moi, c'était un cheminement logique d'arriver à rejoindre une boîte produit qui agit pour faire une tech plus éthique. Mais moi, je l'ai plus vu sur le côté éthique plus que sur le côté écologique, donc qui est un peu plus large. D'ailleurs, chez Fairphone, le côté écologique, oui, on y est, mais on défend aussi un projet décolonial, quoi. On essaye aussi de montrer qu'il y a des personnes qui souffrent, en fait, qui sont dans des conditions de travail qui ne sont pas du tout acceptables derrière les fabrications d'objets électroniques et qu'on ne parle pas assez de ça. Moi, le nombre de fois que je suis invitée à des tables rondes pour parler du problème environnemental du numérique, et où on me dit, bon, par contre, tu parles pas trop du côté social, hein, ça va. Bah non, si, il faut en parler. En plus, c'est complètement lié. Pourquoi, si je parle des déchets électroniques, des 5 milliards de téléphones là qui vont finir en déchets électroniques en 2022, ils vont finir où, ces déchets électroniques? Ils vont finir au Ghana, à Boglouchi, parce que c'est une des plus grandes décharges de déchets électroniques au monde. Et les personnes qui vont traiter ces déchets, c'est, la plupart d'entre eux, c'est des gamins, des enfants. Donc ça, c'est des choses que le monde occidental ne veut pas voir. C'est des choses où on ferme vraiment les yeux là-dessus. Et donc, si on accepte quelque part, en fermant les yeux, que des gens soient exploités loin de chez nous, dans les pays dits des Suds, eh ben, on accepte forcément les problématiques sociales et environnementales qui vont derrière, les deux étant liés. Les décharges de déchets électroniques, c'est aussi un gros scandale environnemental. Donc tout est lié. Et donc une des choses qui m'a quand même bien marqué il y a une dizaine d'années et qui m'a poussé à bifurquer, c'est la prise de conscience de tout ça. Quand j'ai passé quelques temps en Indonésie, j'ai vu à quel point même les gens dans mon domaine, hein, parce qu'on rencontrait principalement des développeuses et des développeurs, vivaient dans des. Avaient peut-être des boulots. Pas forcément très simple et très inspirant, mais en tout cas, œuvrait énormément pour des associations locales qui, éthiquement, agissaient pour un numérique plus responsable, quoi. Je me souviens, en Indonésie, avoir rencontré des jeunes filles développeuses qui finissaient leurs études, montaient une boîte pour vivre de développement e-commerce, peu importe lequel. Et à côté de ça, un week-end sur deux, elles prenaient leur scooter pour faire le tour de l'île de Java pour donner des cours de code aux gamins en disant « bah ouais ». Il faut qu'on initie les membres des campagnes, parce qu'il n'y a que les riches des villes qui font des études d'informatique, il faut que ce soit plus large, etc. Enfin voilà, et ça, c'est vraiment des choses inspirantes qui m'ont poussé à bifurquer, je dirais.
Ah bah merci pour cet éclairage. Effectivement, hein, moi j'ai lu La pensée selon la tech, le paysage intellectuel de la Silicon Valley chez CF Éditions. Effectivement, ça vend pas du rêve comme tu viens de nous en vendre là. Enfin, vendre. En tout cas, comme tu viens de nous le présenter là, si tu veux. Donc, moi non plus, je suis pas très très attiré par ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'est des reproductions de techniques et puis de concepts qui sont pas très très intéressants selon moi, et en tout cas qui vont pas dans le bon sens pour le numérique. Alors effectivement, pour l'Afrique, j'étais récemment au Biennale de l'éducation nouvelle à Bruxelles, qui réunit pas mal de personnes qui évidemment promeuvent l'éducation nouvelle. Il y avait des personnes représentant de pays africains et qui nous disaient qu'ils avaient l'impression de vivre une deuxième colonisation en Afrique par les GAFAM qui essayent de les accoutumer comme ils l'ont fait avec le Coca-Cola à des solutions privatrices pour que après effectivement ils gardent ces solutions. Et en plus ils avaient bien conscience qu'on leur envoyait nos poubelles numériques. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour ces pays-là. Donc je te rejoins vraiment sur ce constat-là, même si moi j'ai pas eu cette chance-là d'aller constater sur place un peu tout ce qu'ils subissaient, quoi.
Alors si vous écoutez France Inter, il y a Le Code à changer qui est un podcast, parce qu'on est dans un podcast, on pourrait faire la pub pour un autre podcast.
Bien sûr, bien sûr.
Le Code à changer qui est un podcast que j'aime bien, et le dernier épisode, le journaliste a invité Sénabé Kofi Agbodjinou, qui est une personne qui vit actuellement au Togo, si je ne me trompe pas. Et l'intitulé de ce podcast, c'est « Quand le numérique colonise la ville africaine ». Et justement, Sénamé parle exactement le sujet qu'on aborde maintenant. Et du fait aussi que dans certains pays africains, il y a une vraie culture du libre, en fait, pourtant. Hein, beaucoup plus que chez nous, hein, bizarrement. Hein, beaucoup plus qu'on va dire qu'encore en Europe, c'est pas forcément vrai, mais beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, il parle de l'aberration de ce qui peut se passer là-bas. Donc, j'invite chacune et chacun à écouter ce dernier numéro du Code à changer.
D'accord, merci pour ces précisions. Effectivement, on essaiera de mettre la référence encore une fois dans la page de l'émission.
On va peut-être préciser, on est une émission de FM avant d'être un podcast. Je pense que c'est important aussi.
Puisqu'on diffuse en direct quand même.
Merci Étienne, c'est vrai. C'est pas simple en plus à gérer ce genre de choses. Alors, on a jusqu'à à peu près 16h42. Hein. Je vous le dis avant parce que c'est pas forcément évident de vous couper, Agnès et Tristan. Donc, voilà. Donc, on essaie de garder ça en cap. Du coup, la prochaine question, elle concernait un peu la prospective, un peu de prospective. Comment vous voyez l'évolution du numérique dans le contexte de crispation énergétique? Alors, je peux prendre un exemple d'un chaton. Hein, alors, chaton, vous en avez déjà entendu parler peut-être dans l'émission. C'est une structure qui fait partie du collectif des hébergeurs alternatif transparent, ouvert, neutre et solidaire initié par Framasoft. Et parmi les chatons, je connais Résilien par exemple, qui réfléchit à proposer des services aux structures en se posant vraiment des questions sur est-ce que c'est utile de laisser le site web allumé la nuit par exemple, comment on fait pour consommer moins d'énergie par rapport aux services qui sont proposés sur des clouds, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'était pour illustrer un peu le sens de ma question, mais je repose la question: comment vous voyez un peu l'évolution du numérique dans le contexte de crise énergétique, Tristan?
Ben nous, c'est un sujet sur lequel on bosse. Alors là, je mets ma casquette Scaleway, si vous le permettez. C'est un sujet qui nous préoccupe. En gros, on est des industriels du cloud, donc on essaye de s'assurer que notre business y tourne bien, hein, déjà on consomme le moins possible d'énergie. Récemment, ça a l'air de... En fait, on consomme beaucoup, mais on consomme le minimum. Mais on a beaucoup de clients, donc en fait on est gros, mais on fait très très attention. Donc par exemple, on va innover pour avoir des data centers qui sont refroidis avec de l'air ambiant. Tu vois, alors, historiquement, un data center, tu mettais plein d'ordinateurs. Bon, évidemment, ça chauffe. Tu sais, quand t'as ton ordinateur sur les genoux et que tu regardes une série Netflix, tu te rends bien compte qu'il chauffe. Donc, et ça, c'est juste un petit ordinateur à toi. T'imagines des serveurs par milliers qui sont dans un genre de hangar. Ils chauffent, mais monstrueusement. Et la technique jusqu'à présent consistait essentiellement à les mettre dans un frigo, en gros, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc, ça chauffe comme un radiateur, mais tu le mets dans un frigo, ce qui est donc complètement con. Et évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie, parce que pour 100 watts que tu vas mettre dans un ordinateur, eh ben tu pouvais mettre jusqu'à 100 watts de climatisation pour refroidir ce même ordinateur. Alors, nous, on a une technologie qui est différente, qui consiste essentiellement à, in English, on dit du free cooling, c'est en fait refroidi avec de l'air ambiant. Donc ton hangar, c'est un immense courant d'air où tu fais circuler de l'air extérieur. Et comme tu es en Île-de-France et que la température moyenne, c'est 12 degrés, bah, l'essentiel du temps, tu vois, c'est suffisamment frais. Et on se débrouille pour que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc déjà, ça fait faire des économies d'argent, hein, à l'entreprise. Mais c'est pas suffisant. Et ce qu'on veut faire, par exemple, chez Scaleway, c'est faire durer le matériel très longtemps. Par exemple, chez Facebook, ils changent leur serveur tous les 2 ans, ce qui est une totale aberration. Et là, c'est la méthode back market, c'est-à-dire qu'ils les revendent en se disant, ouais, bah, quelqu'un d'autre va acheter ce matériel d'occasion et nous, on va en acheter du tout neuf, tout brillant. Et chez Scaleway, notre matériel, on achète du matériel haut de gamme et au bout d'un moment, généralement 3 ans à peu près, eh ben, on le transforme en offre milieu de gamme et ensuite en serveur de fichiers ou en offre d'entrée de gamme. Et tu fais durer ton matériel comme ça pendant 10 ans. Et évidemment, bah, l'énergie qui a été investie pour fabriquer le matériel, tu l'amortis, en quelque sorte, comptablement, hein, sur 10 ans. Et bah, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait utiliser du free cooling. Tout le monde devrait autoriser aussi à refroidir les serveurs à une température qui n'est pas 20 degrés. D'habitude, hein, tu vois, il fait 20 degrés dans un data center parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait dans l'industrie. Et ben, chez Scaleway, dans notre nouveau data center, et ben là, on dit ça, cette température, elle est variable en fonction de l'air extérieur. Elle va pas dépasser 32 degrés parce que les serveurs sont certifiés pour fonctionner jusqu'à 32 degrés. Donc, on va rester en dessous de ces 32 degrés, mais on s'autorise à monter, par exemple, jusqu'à 30 degrés. Parce que s'il fait 25 dehors, bah, tu mets de l'air à 25, et puis à l'intérieur, bah, évidemment, il fait plus chaud, donc il fera 30 degrés, mais tu n'auras pas besoin de refroidir. Et donc, il n'y a pas de climatisation dans le dernier data center de Scaleway, pas du tout. Les serveurs ne sont pas refroidis avec de la climatisation, juste avec de l'air ambiant, et qu'on va un peu humidifier pour refroidir cet air quand il fait vraiment très chaud. Donc, il y a de l'innovation à faire. Mais le problème de fond, donc aussi bien là-dessus que pour conserver le matériel longtemps, mais il faut en avoir la volonté, puis il faut avoir la capacité de l'expliquer au client que c'est pas parce que le serveur a 8 ans qu'il est pourri, il marche encore très très bien, mais voilà, on vous le vend, on vous le loue pas cher, il faut l'accepter, quoi.
Merci Tristan pour cette vision de ce que sont les data centers chez Scaleway. Agnès?
Oui, alors avec tout ce qu'on a dit d'un peu dur là pendant tout ce podcast, moi je pense que il faut des solutions qui soient plus simples. Il faut que les consommatrices, consommateurs aient des solutions à disposition pour qu'elles puissent garder leur téléphone plus longtemps, leur appareil plus longtemps, etc. Mais je pense que un truc qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'en tant que technicien et technicienne, on se défocalise aussi de notre propre angle technique, en fait. Et qu'on contribue à ne pas forcément pousser des solutions techniques quand il n'y a pas besoin de technique. Donc, c'est un peu bizarre ce que je sors dans un auditoire qui doit être à mon avis très tech. Mais... par exemple, moi, je défends beaucoup plus l'approche low-tech, qui n'est pas anti-tech non plus, mais qui va plutôt favoriser des approches où on va avoir des solutions, des technologies qui vont être plus robustes, plus simples, certes moins impactantes pour l'environnement, mais aussi plus partagées, pensées par des communautés d'utilisateurs et d'utilisatrices plus larges, etc. Donc moi, ça, c'est des approches qui m'intéressent beaucoup, parce que je pense que ça, si je reviens à la problématique environnementale, ça va passer par aussi moins de tech, en fait. Qu'est-ce que c'est que la sobriété énergétique? C'est aussi potentiellement arriver vers des consommations moins effrénées et du coup vers potentiellement des solutions qui ne passent pas par de la tech. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à des rassemblements autour du numérique pour l'éducation nationale, etc. Et quel désastre de voir des tablettes qui sont dans toutes les écoles primaires ou les collèges en France et qui ne sont pas maintenues parce que les profs sont pas formés, etc. Et pourtant, il y avait aussi cette promesse que le numérique allait être quelque chose qui allait pouvoir résoudre des problématiques sociétales, arriver à faciliter l'apprentissage dans certains milieux, etc. Oui, enfin bon, moi je dis, au bout d'un moment, il faut aussi renoncer à certaines techs, quoi. Et que plutôt que d'aller mettre des tablettes dans toutes les écoles sans vraiment être sûr de l'impact immédiat que ça va avoir, et ben on paye mieux les profs et on va mettre du chauffage, quoi, dans les écoles. Je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me défocaliser de mon angle tech, en fait. même si je suis, si j'ai un background de 25 ans de pure développeuse, quoi.
Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter, ça me fait penser à cette citation que je cite systématiquement quand je fais une présentation sur le sujet, qui est une citation de Upton Sinclair, qui est un penseur américain, qui dit « Il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre. » Et ça, malheureusement, quand je m'adresse à des informaticiens, des gens qui en plus ont été formatés par 50 ans de loi de Moore, où on balance le matériel tous les deux ans parce que de toute façon, il y a du nouveau qui est sorti, qui est vachement bien et plus rapide et tout. Et qu'en plus ils sont payés en fait par cette fuite en avant. Je dis mais cette fuite en avant nous mène droit dans un mur qui est le mur du climat, le mur aussi de social, le mur de l'épuisement des ressources abiotiques et le mur de de l'effondrement de la biodiversité. Il y a un moment cette fuite en avant, il va falloir prendre un virage, il va peut-être ralentir, il va falloir lever le pied parce que On peut pas continuer comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait comme ça, mais on peut pas continuer comme ça. Donc mais ça m'a payé. Ça paye. Et puis j'ai un emprunt. Alors, ça serait bien que ça continue jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser mon emprunt. C'est très difficile d'expliquer des choses à des gens qui, effectivement, sont payés pour pas les comprendre.
Merci Tristan. Oui, alors effectivement, cette question de systématiquement numériser les choses, là je reboucle avec la chronique de G tout à l'heure, mais il faut qu'on se les pose. Hein. Moi je me souviens que dans mon réseau dans lequel je travaillais avant, le réseau DMJC, la question se posait du numérique, mais finalement au sein d'une MJC où les gens se côtoient de manière physique, on voulait instaurer des choses numériques alors que c'était absolument inutile. Les gens se côtoyaient physiquement. Qu'est-ce qu'on va remettre une couche de numérique. Donc cette question-là, effectivement, il faut se la poser systématiquement et elle n'est plus posée. Est-ce que on a vraiment besoin du numérique à cet endroit-là ? Donc cette question-là, il faut systématiquement se la reposer. Il nous reste quelques secondes. Je vous laisse chacun peut-être dire la dernière chose que vous vouliez éventuellement dire aujourd'hui, que vous auriez oublié de dire, même si on a dit beaucoup de choses quand même extrêmement intéressantes. Mais si vous avez encore un mot ou deux à nous dire.
Il y a un mot qu'on n'a pas posé, peut-être pour les informaticiens, ça va être la notion d'éco-conception. Et si on concevait, et ça peut passer par de la low-tech, hein, c'est-à-dire si on se posait la question, quand on veut faire une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle application, est-ce que je suis vraiment obligé de demander aux gens d'avoir un smartphone, une liaison 5G, etc. Ou bien est-ce que peut-être que, je sais pas, mon client, je peux l'informer juste en lui envoyant un texto, comme ça va marcher sur un vieux Nokia 3310 sans me poser de questions. Et sauf que ce Nokia 3310, il aura peut-être 15 ans d'existence. Et puis ce système, il va fonctionner encore... encore longtemps, c'est peut-être ça, et c'est un peu une révolution intellectuelle à faire. Mais si on veut, je sais pas, si le numérique est notre avenir, il faut donc l'économiser, un peu comme l'énergie. C'est peut-être ça.
Merci Tristan. Agnès, le mot de la fin.
Ouais, un petit mot de la fin. Donc là, on vient de mettre un peu en perspective le fait que la tech n'est pas forcément la solution. Mais alors là, je vais chatouiller un peu nos auditeurs et auditrices dans l'open source. Là, pareil pour l'open source. Je pense que faire de l'open source ne rend pas un projet responsable. Mais l'open source peut être un vrai levier pour les projets responsables. Mais il faut vraiment aussi avoir ce techno-discernement sur l'open source. Parce que tout ce qu'on vient de dire sur la tech, du coup, ne serait plus valable. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation.
Merci à vous deux. Merci pour ces contributions. Je pense que ça nous éclaire beaucoup. Hein. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé. Il y avait eu quelques sujets abordés, mais je pense que c'est extrêmement important d'éclairer cette question énergétique au sein du numérique. Alors les mentalités évoluent, mais on voit bien que ça évolue très très lentement. J'avais peut-être peut-être pour compléter ce que tu disais Tristan sur les technos, j'ai eu la chance d'être en Allemagne là récemment où j'ai visité un hackerspace qui s'occupait, alors il y avait une personne qui s'occupait d'abeilles et qui avait mis en place toute une communication avec le cœur de la ruche, mais plutôt que d'utiliser du wifi qui était surdimensionné par rapport à son besoin, avait pris une technologie qui était beaucoup moins consommatrice en énergie. Donc là je pense que ça illustre un peu ce que tu disais sur se questionner sur la bonne technologie pour consommer un peu moins d'énergie. Voilà, je vais repasser la parole à Étienne et on va clore le sujet long qui était
merci,
extrêmement
intéressant. Merci beaucoup Laurent d'avoir organisé et animé ce sujet. Merci beaucoup à Tristan et à Agnès d'y avoir contribué.